La chronique santé.
Et on poursuit notre série sur la DMLA, troisième épisode si je puis dire. On est en compagnie du docteur Laurent Kodjikian, chef de service adjoint en ophtalmologie au CHU de la Croix-Rousse des Hospices Civils de Lyon. Vous êtes également secrétaire général adjoint de la Société Française d'Ophtalmologie. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors je voudrais savoir si la DMLA peut être comparée ou appartient à la même famille que la cataracte.
Alors en effet on a des pathologies oculaires qui sont liées au vieillissement, donc à l'âge. En font partie la DMLA, la cataracte et aussi par exemple le glaucome. Donc il n'y a pas de lien direct entre la cataracte et la DMLA. Par contre, une des questions qu'on nous pose souvent en consultation, c'est savoir, docteur, j'ai une DMLA, j'ai une cataracte, est-ce que je peux me faire opérer de la cataracte? Et la réponse, maintenant on a des différentes analyses qui ont été poulées, rassemblées, ce qu'on appelle des méta-analyses, qui nous montrent que opérer la cataracte chez un patient qui a une DMLA ne va pas augmenter le risque de DMLA. Donc la réponse est oui, clairement, on peut opérer votre cataracte si vous avez une DMLA. En plus, il faut savoir que les implants qu'on met quand on opère la cataracte, on met toujours un implant dans l'œil, sinon l'œil ne voit pas. Ces implants qu'on implante dans l'œil, ont tous quasiment des filtres ultraviolets et en plus des filtres qui bloquent la lumière bleue toxique de haute énergie que les ampoules LED peuvent émettre. Donc les patients sont vraiment très bien protégés après la chirurgie de la cataracte par rapport à leur macula et donc leur DMLA.
Alors on va revenir à la DMLA. Quels sont les traitements actuels dans les deux cas dont vous nous parliez précédemment?
Alors c'est vrai que la semaine dernière on a parlé de la DMLA atrophique et de la DMLA exudative. La DMLA atrophique c'est l'usure naturelle de la rétine mais qui chez ces patients-là est prématurée et trop importante. Et donc en gros c'est ce qu'on appelle les 3 O. O comme ophtalmo, opticien, orthoptiste, puisque ces trois professionnels de la santé vont devoir intervenir pour aider le patient. Donc l'ophtalmologiste est là pour consulter régulièrement le patient et être sûr qu'il n'y ait pas une DMLA exudative, sous-jacente, insidieuse qui pourrait se développer sur une DMLA atrophique. L'opticien est là pour aider le patient à trouver des aides visuelles optiques les meilleures possibles, donc différents types de zoom, de machines qu'ils peuvent acheter chez les opticiens pour arriver à reprendre une capacité de lecture parfois, souvent limitée, mais une capacité de lecture quand même. Et je ne l'ai pas dit encore dans les épisodes précédents, mais je voudrais le dire maintenant à nos auditeurs, qui se passait important, la DMLA ne rend pas aveugle. Donc elle peut rendre extrêmement malvoyante. Donc les patients ne peuvent, au pire de la maladie, ne peuvent plus lire, ne peuvent plus rendre la monnaie chez l'épicier. Donc c'est extrêmement handicapant, hein, bien sûr. Mais néanmoins, ils sont pas dans le noir. Ils ont toujours un champ visuel périphérique. Donc ils gardent une autonomie. Ils peuvent toujours marcher dans la rue. Ils peuvent toujours marcher dans leur appartement. Ils peuvent toujours faire leur toilette intime. Ils peuvent toujours faire un peu de cuisine, etc. Donc je voulais quand même le préciser à un moment.
Oui, c'est important.
Et puis le troisième O, c'est l'orthoptiste, parce que l'orthoptiste peut faire de la rééducation. Il y a de la rééducation visuelle qui existe pour les DMLA atrophiques, qui consiste à, c'est un peu compliqué, mais à délocaliser le point de fixation, c'est-à-dire à leur apprendre à travailler une autre partie de la rétine qui n'est pas directement à la macula. Voilà.
On va parler de...
Et donc la deuxième partie, c'est ce que votre question, c'était sur la DMLA exudative, mais c'était peut-être ça votre question.
C'était ça ma question. La deuxième forme de DMLA, comment se soigne-t-elle?
Alors cette deuxième forme, c'est une DMLA exudative. C'est une forme urgente. Donc quand on a un nez au vaisseau, donc d'un coup brutalement, un patient qui sait porteur d'une MLA ou d'une DMLA, brutalement a une baisse de vision ou a des déformations des lignes droites qui deviennent ondulées, il doit consulter en urgence un ophtalmologiste dans les 24 heures. Ça, c'est important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer des injections intravitréennes. C'est une injection dans l'œil d'un produit qui s'appelle un anti-VEGF. Comme ça, de prime abord, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas que ça fasse peur parce que ces injections intravitréennes ne font absolument pas mal. Pour donner un ordre d'idée, dans mon service, on doit faire à peu près, on dépasse les 4000 injections par an. Donc chaque jour, on a 25-30 injections dans les yeux. Et vraiment, c'est quelque chose de routinier maintenant. Ce n'est pas banal, rien n'est banal, mais c'est de la routine quand même. Ces injections nécessitent une anesthésie par goutte et la piqûre en elle-même dure quelques secondes et ne fait pas mal. Ces anti-VEGF ont révolutionné la vision de nos patients. Avant l'ère des anti-VEGF, les patients, de façon systématique, inéluctable, allaient perdre la vision. Grâce aux anti-VEGF, on arrive à redonner la vision. J'ai un certain nombre de mes patients qui ont 10 sur 10. Alors bien sûr, pas tous, mais un certain nombre de patients que je soigne depuis des années qui ont beaucoup de piqûres. Donc c'est vrai que ça nécessite parfois beaucoup de piqûres. Certains patients ont de la chance et ont très peu de piqûres, mais un certain nombre ont quand même beaucoup plus de piqûres. Mais néanmoins, ces piqûres, ça vaut le coup parce qu'on arrive à récupérer, à garder la vue et à récupérer parfois même une belle vue.
Oui, donc il y a quand même des traitements relativement efficaces. Et qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas égaux face à la réaction qu'ils ont?
Ah, mais ça, c'est la santé. C'est comme ça, malheureusement. Il y a un caractère génétique, il y a des formes plus agressives, on sait très bien. On a des biomarqueurs cliniques qui nous font suspecter devant certaines formes qu'elle va moins bien réagir, etc. Mais ça, c'est notre inégalité à tous envers la santé.
Professeur Kodjikian, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef de service adjoint en ophtalmologie au CHU de la Croix-Rousse, des Hospices Civils de Lyon et secrétaire général adjoint de la Société française d'ophtalmologie. À la semaine prochaine.
Merci.